Bonjour. C'est bien vrai, la volatilité boursière s'est apaisée. Toutefois, nous continuons notre formule en confinement puisque le virus demeure parmi nous. Je m'appelle Raymond Kerzero, directeur de la recherche avec PWL Capital. Aujourd'hui, 5 sujets au programme. La revue des marchés, les derniers résultats financiers des banques canadiennes, de nouveaux arguments en faveur des fonds passifs, la bourse et les récessions au Canada et aux États-Unis, et enfin, utiliser la valeur accumulée de votre maison pour financer la retraite. Bienvenue à l'investissement décomplexé en confinement. Alors, je vous présente mes collègues James Parkin, gestionnaire de portefeuille. Salut James.
Bonjour Raymond, ça va bien?
Ça va très bien. Et François Doyon-Larochelle, toi aussi tu es gestionnaire de portefeuille. Salut François.
Salut Raymond.
Nous enregistrons cet épisode, comme à l'habitude, par appel conférence pour respecter les directives de la santé publique. Alors, sujet numéro un, François, la revue des marchés.
Oui, comme par les semaines passées, je vais faire le point sur les rendements des marchés. Comme Raymond a dit peut-être en intro, il faut dire que les marchés boursiers sont plus normaux en ce moment, moins volatiles qu'il y a un mois et demi, deux mois. Mais je pense que c'est important de faire le point quand même. Donc, en date du 8 juin, sur le TSX, on est à moins 6 % sur le S&P 500 en dollars US, on est rendu au point zéro. On a récupéré toutes les pertes. Donc, wow. Depuis le 23 mars, le S&P 500 est à la hausse de près de 45 % C'est assez incroyable. Sur le S&P 500 dollars canadiens, maintenant, on est positif à 3,2 % À l'international aussi, les choses s'améliorent. L'international en devise locale, on est à moins 7,2 %À l'international en dollars canadiens, encore un petit écart entre en devise locale et en dollars canadiens, on est à moins 4,3 %. Et sur les marchés émergents, enfin, moins 6,3 %. Il faut dire que là, dans les trois dernières semaines, là, les marchés étaient assez puissants, entre 5 et près de 10 % de hausse là, sur ces indices-là que je viens de mentionner. Maintenant, si je regarde là, les petites capitalisations en dollars US aux États-Unis, on se souvient par les semaines passées, il y avait une différence de rendement assez importante des titres de grande capitalisation et les petites capitalisations. Maintenant, le rendement à ce jour, cette année, moins 7,6 % sur les petites capitalisations. Donc, un rebond assez important là, dans les trois dernières semaines, près de 14 % à la hausse des petites capitalisations. Du côté des actions valeur, on est à moins 8,3 % à ce jour cette année. Là encore, la très forte remontée dans les dernières semaines, près de 13 % à la hausse dans les trois dernières semaines. Et du côté des actions croissance en dollars US, plus 9,2 % à ce jour cette année. Donc, les actions de croissance ont encore le vent dans les voiles, mais depuis les trois dernières semaines, là, depuis qu'on a fait ce rapport-ci, la croissance du côté des actions de croissance est moins forte, là, un petit peu. Maintenant, pour un portefeuille équilibré, c'est-à-dire un portefeuille quand même qui n'a pas de frais de gestion, qui n'a pas de couverture pour le taux de change, qui n'a pas de biais vers les titres de petite capitalisation et de biais vers les titres de valeur. Un portefeuille équilibré, 60 % actions, 40 % obligations. On est en territoire positif à 0,8 %. Un portefeuille conservateur, 60 % obligations, 40 % actions, également en territoire positif, près de 2 % Et le portefeuille croissance, 80 % actions et 20 % obligations, un portefeuille un petit peu plus agressif. On est toujours en territoire négatif, mais de 0,6 %. J'ai mentionné beaucoup de statistiques. Là. Je voudrais rappeler à nos auditeurs que sur le site de PWL Capital, dans la section des documents, on peut retrouver les statistiques mensuelles de marché. Donc, allez voir notre site Internet et vous aurez les détails.
Merci beaucoup, François. Un bon tour d'horizon. Alors, prochain item à l'agenda, les derniers résultats des banques canadiennes. Là, James, j'ai bien hâte de t'entendre.
Écoute, sujet favori des investisseurs canadiens, nos grandes banques, on les aime tant. Et pour beaucoup de raisons, c'est un placement qui porte fruit depuis très, très, très longtemps pour beaucoup de Canadiens. Je me rappelle dans les débuts de ma carrière, à la fin des années 80, On parle de crash de 87-89. On parlait des grandes banques comme étant un placement mort, puis ça ne faisait pas grand-chose depuis tant d'années. Mais depuis lors, si on regarde les graphiques à long terme, ce sont des placements absolument extraordinaires. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, et tu en as parlé lors du dernier balado, c'est que les rendements qu'on reçoit des actions, c'est de la plus-value d'une part, puis des dividendes d'un autre. Et les banques canadiennes, historiquement, ont toujours donné des très, très bons dividendes. Et ces dividendes-là ont toujours été en croissance. Faut dire que le marché canadien, c'est assez particulier comparativement, par exemple, aux États-Unis, où tu as un grand nombre d'institutions financières. Au Canada, c'est vraiment contrôlé. Et c'est 6 grandes banques canadiennes à charte, plus un paquet de banques qui sont soit détenues par des banques étrangères ou ce sont des plus petites institutions financières, souvent réglementées du côté provincial que fédéral. Donc, beaucoup de clients nous appellent et nous disent « Hey, tu sais, la bourse a repris pas mal, on lit vos choses, puis on sait que c'est concentré dans 10 gros tech stocks. » Mais vous savez, pour les actions canadiennes, j'aurais juste moi à m'acheter des banques parce que regarde, ils ont des taux de rendement de dividendes à 6 quelques pourcents, puis ça n'a rien fait que monter depuis toujours, puis ils ne l'ont jamais coupé, puis blablabla. Bla, bla. Fait que là, nous autres, évidemment, le marché aujourd'hui nous permet de faire ça de façon facile. Il y a un ETF de banque. Et il s'appelle le ZEB, qui est fabriqué par BMO ETF. Et justement, ce ETF, du haut au 21 février jusqu'à mai 28, est en baisse de 22 %. Donc, ce fonds transgé en bourse, c'est 0,62 de frais de gestion tout compris. Mais fondamentalement, le client me demande, est-ce que je devrais acheter ZEB? Puis là, on dit, écoutez, premièrement, vous en avez beaucoup dans le fonds diversifié des actions canadiennes qu'on a pour vous, parce que les banques canadiennes, ça représente à peu près 30 à 33 dépendant des jours qu'on regarde ça, là, de l'indice canadien en termes de poids. Fait que ceux qui ont un indice qui est diversifié en ont beaucoup. Fait que là, avec l'arrivée des résultats des banques dans la semaine du 25 mai, c'était vraiment intéressant de lire ça, beaucoup plus à l'habitude, parce que ces banques-là sont intégrées, parce qu'ils couvrent tout le pays du Canada. Eux, ils ont la fenêtre sur ce qui se passe réellement. C'est quoi l'impact économique sur le terrain pour le particulier qui est client et pour les entreprises qui sont clients. Fait que les analystes, les grands investisseurs institutionnels, ils attendaient là, avec grande anticipation qu'est-ce que diraient les banques. Et ce qu'ils ont fait, ils ont annoncé pour la plupart une baisse importante de leurs bénéfices, mais c'est un peu artificiel parce que la business va sensiblement bien pour l'instant, mais ils ont tous pris des réserves de provisions pour pertes. Puis ça, c'est vraiment comment est-ce qu'ils font ça puis pourquoi est-ce qu'ils font ça? Bien, premièrement, il y a des règles bancaires qui font qu'ils doivent faire des provisions. Et généralement, c'est entre 0,25 et 0,50 de leurs actifs. Mais là, ils ont décidé, avec la crise du COVID, que wow, il faut provisionner parce que tout à l'heure, c'est-à-dire dans 3, 4, 5, 6 mois, quand le gouvernement va arrêter ses programmes, soit de donner de l'aide aux particuliers mensuellement ou hebdomadairement, de l'aide aux entreprises, le stimulus fiscal. Mais là, puis là, le fait que les banques ont offert tous ces programmes de dire, écoute, on peut différer nos paiements d'hypothèque, on va te donner 6 mois, puis on va laisser courir les intérêts, puis là, on va repartir ça. Fait que là, comment est-ce qu'ils font ça? Bien, c'est propre à chaque banque. Ils ont des modèles très sophistiqués, mais c'est des boîtes noires à toute fin pratique. Mais ce qu'ils ont annoncé dans l'ensemble des 6 grandes banques, c'est 11 milliards de provisions additionnelles. C'est énorme. Et là, à ce 11 milliards-là, on a un total maintenant de 27 milliards. Fait que là, ils sont assis sur cette grosse réserve de 27 milliards, oui?
Tu me parles de 11 milliards qui passent, donc c'est 11 milliards qui s'ajoutent aux réserves pour mauvais prêts déjà existantes. Ce qui fait un total de 27 milliards, est-ce que je comprends bien?
Exact. Okay. Puis sur ce 11 milliards-là, il y en a 7,6 qui est effectivement pour des prêts qui n'ont aucun problème en ce moment. Fait que sur tout l'ensemble de portefeuilles de prêts, ils prévoient qu'il y en a à peu près 7,6 milliards qui vont être dans problème dans les 6 mois qui vont venir avec l'évolution de l'impact économique du COVID. Fait que moi, dans ma carrière, avant d'être cofondateur de PWL, je travaillais dans une des plus petites institutions financières au Canada qui s'appelait le Trust Capital. Et c'était la propriété d'une famille fortunée, la famille Beutel. Et Austin Beutel, un des cofondateurs de Beutel Goodman, un des grands gestionnaires de fonds de pension. Et moi, j'ai appris, parce qu'on était impliqué dans la gestion du portefeuille propre de placement du Trust, et le bilan d'une banque, c'est l'inverse de notre bilan personnel. Moi, quand j'ai une hypothèque, j'ai une marge de crédit, pour moi, c'est une dette. Quand j'ai un dépôt à terme, c'est un actif. Mais la banque, c'est l'inverse. La dette, l'hypothèque qu'elle t'octroie à toi, Raymond, ou François, ou à moi, James, ou à nos auditeurs, c'est son actif. Le dépôt à terme, c'est une dette qu'il doit rembourser quand ça vient à terme. Fait que le bilan de la banque, c'est l'inverse du bilan de tous les autres. Donc, ce qu'on a appris là-dedans, c'est que quand on a des prêts qui sont en difficulté, la banque peut, elle, être en crise financière si des actifs, à un moment donné, disent « moi, je t'ai prêté de l'argent, puis là, wop, tu n'es plus capable de payer, puis ta maison ne vaut plus ce qu'elle faisait, puis là, il faut qu'elle vende l'actif dans un environnement difficile, ils peuvent être à risque. » Fait qu'imagine au niveau des entreprises où les modèles d'affaires sont à risque, puis on lit les manchettes, puis les COVID, les lignes aériennes, les restaurants, tous ces gens-là qui ont des prêts, mais c'est des prêts où ces banques-là, ces entreprises-là ne peuvent pas survivre. Donc, c'est pour ça que quand les résultats financiers ont été annoncés, le fait qu'ils ont annoncé toutes ces réserves-là, le marché a dit « wow, ils ont les moyens de provisionner ça, c'est prévoyant ». Si on n'était pas dans une crise COVID, puis une banque canadienne annonçait une augmentation de ses réserves pour les prêts qui seraient non performants. Là, wow! La banque est mal gérée. Ils gèrent pas le risque bien. Ils ont un portefeuille de prêts à problème. Wow! On va faire baisser le titre. Mais dans cette période, c'est exactement l'inverse. On annonçait toutes ces mesures-là, provisionner au-delà des ratios de 0,25 à 0,5. Puis on parle de 1,6, 1,7 dans le cas de certaines banques. Bien, on voit qu'ils prennent les moyens. Fait que tout ceci pour dire que ce qui est aussi intéressant avec les résultats des banques, c'est, et on revient à la notion de la position qu'ils ont, la vue d'ensemble de l'économie canadienne, et on voit qu'ils sont très, très prudents. Pour la plupart, ils prévoient que la reprise ne normalisera pas au mieux avant la fin de 2021, sinon le premier trimestre de 2022. En fait, le 29 mai, le président Victor Dodig de la CIBC a été cité justement en disant exactement ça. Fait que là, on revient à la notion de l'investisseur qui dit « wow, les banques canadiennes, c'est extraordinaire comme placement, j'ai ce gros taux de dividende-là ». Là, encore une fois, et j'en ai parlé dans un de nos récents balados, il faut faire attention parce que dans l'environnement canadien, on se fie sur exemple la crise financière 2008-2009. On est le seul pays du G7 où son secteur bancaire n'était pas en crise, où les banques n'ont pas dû être sauvées par les gouvernements ou la banque centrale avec des prêts ou des investissements. Fait que là, les gens se disent « ah, c'est des modèles d'affaires, on ne peut pas se tromper ». Mais en réalité, si des choses se mettaient à aller mal parce qu'on avait une récession en W puis une deuxième vague de COVID, c'est pas évident que les banques ne couperont pas leurs dividendes. Et le dividende, c'est l'aspect magique des rendements d'être actionnaire des banques. Fait que, oui, Raymond?
Oui, j'aimerais ça ajouter un peu par là-dessus, parce que je trouve ça important qu'on revienne à la stratégie de placement pour nos auditeurs. Premièrement, j'aimerais ça réitérer ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai travaillé dans une grande banque canadienne au milieu des années 90. Et puis au moment où j'ai été engagé en 1994, la plupart de mes collègues étaient détenteurs depuis de nombreuses années d'actions de cette banque-là. Ils en étaient écœurés tellement les rendements avaient été médiocres. Donc, projeter les rendements des dernières années des banques dans l'avenir, c'est littéralement essayer de prédire l'avenir. Moi, si j'avais une décision à prendre par rapport à ce que, ou si un auditeur me demandait est-ce que je devrais surpondérer les actions des banques, le facteur que je regarderais, c'est est-ce que vous avez une connaissance particulière à propos des actions des banques? Est-ce que vous avez une connaissance spéciale? Est-ce que vous avez des informations privilégiées qui vous permettent de vous démarquer pour pouvoir dire que les actions des banques sont sous-évaluées? Sinon, le meilleur placement, c'est pour les actions canadiennes, c'est tout simplement d'acheter l'indice de marché. Si on n'a pas d'informations exclusives ou spéciales à propos des banques, la probabilité de surpasser le marché en investissant dans les banques est inconnue.
En fait, Raymond, si des investisseurs ont eu l'occasion de lire les états financiers des grandes banques canadiennes, c'est pas évident, des pages et des pages de notes techniques par rapport aux structures d'actions privilégiées, de debentures, etc. Ça prend une expertise vraiment pointue pour bien les connaître. Puis en bout de piste, c'est toujours le même risque non systématique quand on investit concentré dans un secteur. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Puis ce qui est clair, c'est que les actions des grandes banques, c'est tellement comme perçu de la part des investisseurs qu'on ne peut pas se tromper que peut-être un jour, il va y avoir un problème. Puis si jamais on avait une récession en W, imagine si les banques canadiennes coupaient leurs dividendes. Il faut comprendre, dans un balado récent, j'ai dit, en Europe, en Grande-Bretagne, les banques centrales ont dit aux banques, vous allez couper vos dividendes. Parce qu'ils savent que nous autres, on ne se mettra pas à vous donner de l'argent pour vous maintenir à flot. Puis d'un bord, vous le sortez et vous donnez à vos actionnaires. Fait que gardez votre argent pour rester en santé financière. Fait qu'imagine si des banques canadiennes, au lieu de provisionner à même des gros profits qu'ils font, ils disaient non, on va arrêter de payer nos dividendes, on va garder l'argent pour couvrir les prêts. Imaginez ce que ça ferait au cours de ces titres-là. Ça planterait. Puis un point que je soulignerais, et les auditeurs peuvent aller en ligne sur le site de BMO Global Asset Management, et de lire le fact sheet de ZEB, le seul ETF, et c'est un ETF equal weight des 6 grandes banques. Bien, le rendement depuis 5 ans, au 29 mars, il est inférieur de 1% par année du taux de dividende actuel de 5%. Fait qu'imaginez au taux actuel des dividendes, fait qu'ils vont dire, hey, c'est un placement formidable, mais depuis 5 ans, tout le rendement est venu du dividende. Fait que pour moi, quand je regarde tout ça, et on prend pour acquis, bien là, c'est la diversification qui est importante. Et quand tu parles, Raymond, est-ce qu'on a de l'information privilégiée pour faire en sorte qu'on va prendre une décision? Bien, la complexité des enjeux pour les banques, la plupart des Canadiens ne réalisent pas, mais pour 4 des 6 grandes banques, plus de 50 % de revenus proviennent à l'extérieur du Canada. On regarde la banque TD, plus particulièrement avec leur présence aux États-Unis, la Banque de Nouvelle-Écosse avec sa grosse présence en Amérique latine, chose qui échappe à beaucoup, beaucoup de Canadiens. Fait quand on regarde tout ça, on dit « wow ». Mais n'empêche que le fait qu'ils ont ce très fort dividende, ça nous protège. Mais si encore une fois, le régulateur canadien a déjà dit, puis je l'ai mentionné dans le balado précédent, il a dit aux banques « vous ne pouvez pas augmenter vos dividendes ». Jusqu'à avis contraire. Fait qu'ils n'ont pas été dit de les couper, ils n'ont pas été dit de les mettre à zéro, ils ont été dit de ne pas les augmenter, mais ce ne serait pas long que si on commençait à devoir donner de l'argent à nos banques canadiennes parce que les Canadiens qui sont surendettés, maintenant, ne sont pas capables de payer leurs dettes puis ils n'ont pas assez provisionné. Fait que ça reste à voir. Alors, c'est ce que j'ai à rapporter pour nos auditeurs concernant les résultats financiers des grandes banques. C'est une question qu'on reçoit de beaucoup de gens et il y a du risque. Ils ont été un placement extraordinaire depuis longtemps. Sur une base de l'échelle mondiale, c'est parmi les mieux gérés. Mais c'est tout ce que j'ai à ajouter.
Donc, on ne prend pas de paris sectoriels dans les portefeuilles, puis pas plus pour les banques canadiennes que pour d'autres secteurs.
Exactement. Merci pour le rappel à l'ordre.
Le prochain item à l'agenda, des nouveaux arguments en fonction de la gestion passive. Moi, j'ai lu récemment un papier d'une revue académique qui s'appelle le Journal of Financial Economics. C'est un des journaux académiques les plus prestigieux. Et c'est un article qui a été écrit par un professeur de l'Université Arizona State, un dénommé Hendrik Bessembinder. C'est vraiment un article qui a fortement renforcé ma conviction dans la gestion passive puis je vais m'expliquer brièvement. Donc, ce que Bessem Binder a fait, il a étudié tous les rendements de toutes les actions qui ont été cotées sur les bourses américaines de 1926 jusqu'à 2016. Donc, on parle quand même là, de 90 ans d'historique. Et il y a 25 000 titres qui ont été cotés sur les bourses américaines pendant cette période-là. Donc, je vais vous poser une question, François et James. Normalement, quand on regarde les rendements en bourse, quel est le pourcentage d'actions dont on devrait s'attendre qui surpasse le marché? Puis quel pourcentage devrait sous-performer le marché? François, as-tu une réponse qui te vient comme ça?
Je te dirais 40-45%.
OK. James?
En fait, c'est une question truquée, Raymond, parce que ça dépend des périodes. Si on regarde des périodes comme maintenant, où tu as aux États-Unis 10 sociétés technologiques qui génèrent, jusqu'à il y a 3 semaines, généraient presque l'ensemble du rebond, bien là, on verrait qu'en se comparant au rendement du marché, il y a un très petit nombre d'actions. Fait que le pourcentage serait très faible. Fait que si on est dans des périodes...
Mais là, on parle sur une longue période.
Sur une longue période, ça s'approcherait du 50 %.
Oui, c'est ça. Ben, si on rentre dans une salle puis on dit, on identifie sur 100 personnes le nombre de conducteurs qui sont plus compétents que la moyenne puis le nombre de conducteurs qui sont moins compétents que la moyenne, on s'attendrait à 50-50.
Ben oui, il va y avoir 80 % du monde qui pense qu'il chauffe mieux. Puis ça, c'est la surconfiance, overconfidence en anglais, là, de l'être humain. Là.
Ah, moi, étrangement, ce que cet article-là a révélé, c'est que François a raison. Étrangement, il y a une minorité de titres en bourse qui donnent des rendements qui surpassent le marché. Donc, je vais vous donner des chiffres ici. Si on regarde les rendements mensuels, donc 25 000 titres sur pratiquement plus de 1 000 mois, là, on parle de 90 ans. Si on regarde tous les rendements mensuels, c'est seulement 48 % des titres qui ont battu le marché sur une base mensuelle. Puis ça, c'est un chiffre très important parce que ce qui arrive, c'est que, bon, premièrement, on remarque une minorité. Donc, 48 % ont battu le marché, 52 % ont sous-performé. Donc, on parle d'un écart de 4 %. D'accord? Mais le problème là-dedans, c'est que quand on regarde ça sur du plus long terme, cette différence-là a tendance à s'augmenter. Tu te rappelles, James, tu nous as expliqué plusieurs fois que l'arithmétique des rendements à la hausse puis à la baisse, c'est pas la même. Chaque fois, quand on perd de l'argent en bourse, ça prend un rendement plus élevé que le pourcentage qu'on a perdu pour se refaire. Puis à cause de ça, ce 48 %-là, quand on regarde sur le long terme, effectivement, c'est seulement 30 % des actions en bourse qui surpassent la moyenne boursière. Puis ce que ça nous dit, c'est que la grande majorité des actions sous-performent, puis il y a un petit nombre d'actions qui surperforment, mais vraiment de beaucoup par contre. Puis ce que l'article nous dit, ou ce que le professeur Bessem Binder nous dit, c'est qu'à la marge, il y a seulement un petit chiffre, un petit nombre de à peu près 4 % des titres qui sont cotés en bourse, qui font pencher la balance et qui permettent en fait à la bourse de surpasser les bons du trésor dans l'ensemble.
Tu dis 4 % Raymond?
Seulement 4 % si wow. Tu lis. Ça, c'est dans l'abstract au début de l'article. Ouais. Je vais mettre l'article dans les notes de l'épisode pour nos auditeurs. Mais ça, c'est à la marge. Je ne dis pas qu'il y a seulement 4 % des titres qui battent le marché. Je dis qu'à la marge, quand on prend tous les titres qui ne battent pas les bons du trésor, qui sont inférieurs, puis là, on commence à prendre à partir des titres qui surperforment le moins, puis tranquillement, on accumule la valeur cumulative, on commence à faire de l'argent quand on arrive au dernier 4 % à la marge. Puis ça, c'est important parce que quand on prépare notre retraite, ce que ça veut dire, c'est que quand on a un portefeuille concentré puis qu'on fait du stock picking, oui, effectivement, si on est chanceux puis qu'on les a, ces bons titres-là dans notre portefeuille, puis on les a en quantité suffisante, on risque d'avoir un rendement qui va être très, très au-dessus, en fait, du rendement du marché. Mais la plus forte probabilité, en réalité, c'est d'avoir un rendement nettement inférieur au rendement du marché. Puis ce risque-là est très élevé dans un portefeuille dans la gestion active où on va avoir, en général, un stock picker va avoir quoi? Entre 20 et 80 titres dans son portefeuille. En haut de ça, on va dire que c'est un closet indexer, c'est pas un vrai gestionnaire actif. Donc, le risque est très élevé. Donc, moi, ma conclusion, c'est si vous préparez, pour les auditeurs, si vous préparez votre retraite, votre pari le plus sûr, c'est de détenir le portefeuille de marché de sorte à capturer la prime de risque des actions. On sait que sur le long terme, l'ensemble du marché d'actions va surpasser les bons du Trésor par une marge importante. Par contre, cette marge-là est drivée par un petit nombre d'actions. La vraie façon de la capturer, c'est de détenir le portefeuille du marché.
Puis ça, Raymond, tu regardes autant les grandes capitalisations que les petites capitalisations. Là, tu inclus tout l'ensemble des titres là, dans l'analyse.
Oui. En fait, j'irais même plus loin. Premièrement, ils regardent le marché au complet. Donc, ça inclut vraiment toutes les capitalisations. Ça inclut toutes les compagnies qui sont venues en affaires, qui ont été cotées en bourse, qui ont été retirées de la cote boursière, soit parce qu'elles ont fait faillite, soit parce qu'elles ont été acquises par une autre compagnie pour toutes sortes de raisons. Donc, c'est plus de 25 000 titres à travers 90 ans d'histoire, mais il n'y a pas eu 25 000 titres pendant tout cet historique-là, on comprend bien. Mais je vais même aller plus loin. Ce même professeur-là a refait la même étude au niveau des marchés mondiaux. Donc là, on parle d'un historique plus court parce qu'on a moins de données sur les marchés mondiaux. Je pense que l'historique est de 20 ou 25 ans. Mais sur 70 000 titres en bourse, j'arrondis un peu, puis arrive exactement à la même conclusion. Il y a un petit nombre de titres boursiers qui propulse le marché dans son ensemble. Et puis, si on faisait strictement une sélection au hasard, à ce moment-là, on a des très forts pourcentages de chances de ne pas choisir les bons titres. Bon, évidemment, les analystes vont dire « Oui, mais moi, je connais mon affaire, je vais vous choisir les bons titres. » Encore une fois, la même question que quand on avait la discussion sur les banques, même l'analyste professionnel qui analyse la Banque Royale, est-ce qu'à la fin du compte, il produit vraiment une information qu'il démarque à un point tel qu'il est capable de surpasser le marché? Personnellement, dans mon expérience, je ne pense même pas que les analystes qui travaillent pour les grandes maisons de courtage obtiennent nécessairement des rendements qui surpassent ceux du marché. C'est mon analyse personnelle, à moins d'avoir de l'information privilégiée sur une base continue. Donc vraiment, le pari le plus sûr, si vous préparez votre retraite, ou même si vous êtes retraité, parce que c'est important d'avoir un bon rendement sur votre capital, si vous êtes retraité, le meilleur portefeuille, c'est encore le portefeuille le plus diversifié possible, puis le portefeuille de marché, c'est pas mal ce qu'il y a de mieux à mes yeux.
Intéressant, Raymond.
Donc, prochain item, François, tu voulais nous parler, revenir sur le sujet de la bourse et des récessions au Canada et aux États-Unis. Donc, je te laisse la parole, mon cher ami.
Merci. Je reviens là-dessus parce qu'il y a encore, beaucoup de clients qui posent la question.
En fait, François, c'est la question de l'heure chez les clients.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va en récession. Les taux de chômage aux États-Unis et au Canada, c'est à la hausse. On est à 13 % au Canada, près de 15 % aux États-Unis. Les ventes au détail sont en recul. Production industrielle est à la baisse. Et toutes les autres données économiques. Dans un épisode passé, James y a abordé le sujet puis a expliqué essentiellement que l'économie, ce n'est pas les marchés boursiers puis que les marchés boursiers, ce n'est pas l'économie. Les marchés boursiers sont tournés vers le futur. Ils intègrent les attentes quant à l'avenir des dividendes sur le cours des actions aujourd'hui. Et d'un autre côté, les nouvelles économiques regardent essentiellement le passé. Donc, moi, ce que je voulais faire, c'est revenir sur les statistiques de rendement des actions au Canada et aux États-Unis en période de récession. Donc, depuis 1929, au Canada, il y a eu 12 récessions, c'est-à-dire une récession à peu près aux 7,5 ans. Aux États-Unis, depuis 1929, il y a eu 14 récessions, donc une récession à peu près aux 6,4 ans. La durée moyenne d'une récession, c'est à peu près 13 mois. Dans 50 % des cas, tant aux États-Unis qu'au Canada, les rendements boursiers en temps de récession étaient positifs, donc 50 % des cas étaient négatifs.
Okay? Incroyable.
Mais la moyenne par contre, est à la baisse. La moyenne, depuis 1929 au Canada, la moyenne de rendement en temps de récession, c'est moins 6,4 % Aux États-Unis, c'est moins 2,5 % Donc, c'est pas si mal. En temps de récession au Canada, moins 6,4 aux États-Unis, moins 2,5 Il n'y a rien pour écrire à sa mère là, ici. Là. Ce n'est pas des rendements catastrophiques. Là, je ne veux pas qu'on m'accuse que je joue avec les chiffres, mais je vais enlever des données, les chiffres pour la Grande Dépression qui a commencé en 1929. Les rendements boursiers à ce moment-là au Canada, là, c'était moins 74 % et aux États-Unis, moins 82 %. Je l'enlève parce qu'à ce moment-là, pas beaucoup d'intervention des gouvernements, pas beaucoup d'intervention des banques centrales. C'est une période très noire. Donc, si je reviens, si j'exclus la Grande Dépression de mes chiffres, les rendements boursiers en temps de récession au Canada, donc sur les 11 dernières récessions, on avait 12, c'est 0 %. Donc, aucun changement. Aux États-Unis, on a des rendements positifs de 3,6 %. Maintenant, un an après le début d'une récession, les rendements au Canada sont positifs de 1 %. Aux États-Unis, d'à peu près 3 %. Après deux ans, après le début d'une récession, les rendements boursiers au Canada sont à la hausse de 13,5 %. Et les rendements boursiers aux États-Unis sont à la hausse de 22,6 %. Vous vous rappelez?
Ça, c'est annualisé, François, ou c'est des rendements totaux?
Rendements totaux.
OK.
Vous vous rappelez que la durée moyenne était de 13 mois, là. Donc, deux ans après, on vient juste de sortir de récession pratiquement, là. Ça fait 11 mois qu'on est sorti de récession. Ouais. Puis les rendements, c'est à la hausse de 13,5 % au Canada, puis 22,6 % aux États-Unis. Donc, ce qui me fait dire, pour un investisseur qui est là pour le long terme, 5, 10, 15, 20 ans, qu'on s'en aille en récession, là, il peut y avoir un impact sur les portefeuilles, mais on a amplement le temps de récupérer. Puis les données montrent qu'après un certain temps, ben les marchés ont repris leur cours. Je vais ajouter à ça, Statistique Canada puis le U.S. National Bureau of Economic Research aux États-Unis peuvent prendre plusieurs mois avant de déterminer que la récession est commencée. Je vous donne un exemple. Pendant la crise financière, la dernière crise financière, le National Bureau of Economic Research aux États-Unis a annoncé en décembre 2008 que une récession avait débuté en décembre 2007. Donc, un an après que la récession a commencé, le National Bureau of Economic Research aux États-Unis a annoncé qu'une récession commençait. Pour la fin de la récession, ils ont annoncé une fin de récession en septembre 2010 pour une fin de récession en juin 2009. Donc, 15 mois plus tard après la fin de la récession. Mais si j'avais attendu en septembre 2010, on dit, il n'y a plus de récession, je vais réinvestir dans les marchés boursiers. J'attends septembre 2010. Bien, ça fait depuis mars 2009 que les marchés ont recommencé à remonter. De mars 2009 à septembre 2010, le S&P a remonté de 61 %. Donc, si on attend que Statistique Canada ou le U.S. National Bureau of Economic Research nous annonce qu'il n'y a plus de récession avant de réinvestir dans les marchés, on va manquer le bateau. Pour conclure, hier, le National Bureau of Economic Research aux États-Unis a annoncé que les États-Unis étaient en récession depuis le mois de février. Sur cette annonce, qu'est-ce qu'ont fait les marchés boursiers? Le S&P 500 à la hausse de 1,2 %, le TSX au Canada à la hausse de 0,8 % et le Dow, un indice qu'on regarde peu, mais quand même que je vais souligner ici, à la hausse de 1,7 %. Donc, les périodes de récession ont peu d'impact sur les marchés boursiers dans leur ensemble.
François, ce que je dis aux clients de façon répétitive, c'est essentiel. Ne vous fiez pas aux manchettes économiques du jour dans les médias pour gérer vos placements. C'est très dangereux. Il y a une expression un peu drôle que je dis, c'est comme regarder ses pieds pour conduire son char. Ça risque de ne pas te mener à bon port. Merci, c'est très clair ce que tu as dit, François. Là. C'est... En tout cas, c'est...
Les données sont là, en tout cas.
Ouais. L'évidence est là.
Ouais. En fait, François, c'est un bel éditorial. C'est un bel éditorial, puis je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. En fait, moi, je ne fais pas ça d'essayer d'acheter puis de vendre dans le marché avec mon portefeuille pour timer les récessions. Ça fait que je suis pas mal la religion.
C'est ça. Si vous êtes investisseur pour le long terme, qu'il y ait une récession ou non, si on a un portefeuille qui est selon nos objectifs de placement, notre tolérance au risque, on devrait garder le cap. On le mentionne régulièrement, mais je pense qu'il faut le mentionner plus souvent.
Oui, d'être un investisseur, ça exige de l'engagement puis de la persévérance.
Oui.
Et finalement, le dernier sujet au programme, je suis vraiment impatient d'entendre James utiliser la valeur de votre maison pour financer la retraite. À toi, James.
Par où qu'on commence avec celle-là?
Ah, ben c'est toi qui décide.
Écoute, je peux me pomper pas mal en parlant de ça. Fait que, si je prends le fruit de mes plus de 25 années de carrière professionnelle comme conseiller financier, planificateur et gestionnaire de portefeuille, il faut dire que dans notre clientèle, il y a très peu de gens qui doivent se fier sur leur maison pour vraiment pallier à leurs besoins financiers. Fait que je vais donner des réponses en deux parties pour refléter la réalité de la majorité des gens puis versus des gens qui sont plus fortunés. La question que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que change le COVID? Et on peut penser, parce que moi, ça arrive souvent, j'ai des clients qui s'occupent de leurs parents âgés ou des clients qui vieillissent puis eux-mêmes ils sont âgés puis là, ils disent « Ah, ben écoute, je ne devrais plus vivre seul, je devrais aller en résidence pour personnes autonomes. Hop, je tombe plus malade, j'ai besoin de plus de soins, je vais aller en CHSLD, privé ou public. » Fait qu'imagine la conversation avec nos parents aujourd'hui. « Mais je veux te placer dans une résidence, je pense que c'est bon pour que tu sois, que tu restes sécure et protégée. » Évidemment, aujourd'hui, les gens vont réagir. « Hey, tu m'envoies à l'enfer, là. » Fait que, qu'est-ce que le COVID va changer? C'est que les gens vont penser, ils vont être moins aptes à vouloir quitter, vendre sa maison pour se déplacer vers un de ces genres de centres-là. L'autre phénomène auquel il faut penser, c'est l'évolution démographique. Et je me rappelle, en la fin des années 90, il y a un économiste canadien de l'Université de Toronto, où j'ai fait mes études universitaires, le professeur Cook, c'est un Australien d'origine, qui est un expert en démographie et économie. Il disait dans ce livre, qui vraiment c'est un best-seller, et il disait, écoutez, là, avec le vieillissement de la population, le prix des maisons, la demande, ça va tout chuter. Évidemment, si on regarde qu'est-ce qui s'est passé avec le prix des maisons depuis 20 ans, c'est exactement l'inverse. Fait que même si on est très compétent comme il l'était, hein, je l'ai eu comme prof, c'est un excellent bonhomme de calibre mondial, c'est très, très dur à prévoir. Fait que est-ce que mon fonds de pension, ça va être pour moi quelque chose sur lequel je peux me fier pour ma pension? Il faut aussi penser que dans le contexte canadien, la résidence personnelle, c'est le meilleur abri fiscal qui soit parce que le gain est exempt d'impôts. Fait que quand on fait des planifications, des projections long terme pour les gens, on voit deux choses depuis 5 ans. L'évolution que quand les gens vont jusqu'à leur espérance de vie, puis si on fait l'hypothèse qu'ils restent dans leur maison, bien souvent, s'ils n'ont pas consommé le capital d'investissement, mais le patrimoine, ça va être la maison. Et plus souvent que d'autres choses, c'est le CELI. C'est encore drôle, mais le CELI, là, les petits 6 000 $ par année, là, après 20, 25, 30 ans, ça fait une somme importante. Fait que vraiment, pour la plupart de nos clients, la maison, c'est vraiment, ça va être un outil pour créer un patrimoine avec le CELI pour faire un transfert intergénérationnel libre d'impôt. Mais pour tous les ceux qui n'ont pas accumulé assez d'argent, la maison, elle, ça va être une décision pas facile parce qu'on le sait que les statistiques, les boomers n'ont pas assez épargné. Ils vont être obligés de travailler plus longtemps parce qu'ils n'ont pas les sous. Mais en même temps, à un moment donné, on décide, « Hey, je vais devoir aller piger dans ma maison. » Fait que pour moi, c'est vraiment une hypothèse qui reflète que vraiment, on n'a pas assez accumulé d'argent. Ou ça peut être comme... C'est le cas à Vancouver, c'est l'exemple classique, et même certaines régions de Toronto, les gens ont acheté leur maison dans les années 60, 70, puis ils ont payé, j'avais un exemple dans le Globe and Mail, il y a quelques années, quelqu'un qui avait payé 25 000 $ une maison en 1967, puis ils l'ont vendue comme 5 millions. Puis ça, il fallait tout refaire, là, fait que c'est une maison qu'ils n'ont pas investi tant que ça pour la garder à jour. Fait que oui, ça, c'est comme j'ai bien gagné un billet de loto, mais pour la plupart des Canadiens, des Québécois, ce n'est pas le cas, là.
Est-ce que ça peut être une bonne stratégie, par contre, parce que je pense que ça se peut que des fois, des personnes aient peut-être investi plus qu'ils pensaient dans leur maison, de sorte qu'ils ont mis plus d'épargne que prévu dans leur maison, puis un petit peu au dépens du REER, puis des autres véhicules d'épargne. Est-ce que ça se peut que ça soit une stratégie de dire, bon, ben plus tard dans ma vie, je vais libérer une partie de mon capital. Les enfants sont grands, j'ai plus besoin et puis j'ai plus envie d'entretenir un terrain. Je vais aller vers je vais continuer de posséder ma propre résidence, mais je vais aller vers quelque chose de moins cher. Puis comme ça va me donner un capital supplémentaire pour augmenter mon capital retraite.
Je suis certain qu'il y a des gens qui font ça, des gens qui ont eu peur de toutes les crises boursières, que ce soit la dernière qui précède celle-ci, la crise financière de 2007-2008-2009, ou la bulle technologique, ou 9-11. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont dit hey, je suis plus sécure, c'est de la brique, c'est du sécure, je peux le toucher. Mais la performance de l'immobilier depuis 20 ans fait en sorte qu'il y a un effet de mouvement qui dit on ne peut pas se tromper, ça va juste augmenter en valeur.
Oui, mais ça, c'est
Fait
pas
que
correct.
oui, ces gens-là auront décidé, au lieu de mettre ça à la bourse, je vais acheter une plus grande maison, c'est libre d'impôts, puis quand je vais venir à la retraite. Mais cette hypothèse-là, ça sous-entend qu'il va y avoir un acheteur, que le prix va avoir augmenté. Si quelqu'un prend sa retraite aujourd'hui en pleine période de COVID, est-ce que les acheteurs vont être là pour l'acheter? Est-ce que ça va être. Fait que ça va très dépendre des circonstances au moment. Et si ça donne que les prix ont monté puis que les marchés sont forts, ben peut-être qu'on va avoir un bon prix puis là, on va redéployer. Ce que j'ai vu dans ma clientèle au fil des années, c'est exemple, je vais vendre la maison, j'ai mon chalet au bord de l'eau, je vais vendre la maison en ville, puis je vais m'acheter un condo. La plupart du temps, ils ont vendu leur maison, puis acheté des condos, puis c'était quasiment au même prix, fait qu'ils n'ont pas décaissé. Mais pour certains, il faudrait que vraiment, au niveau des besoins, ils se disent, écoute, je n'ai pas les moyens de payer tout ça, j'en ai trop, je peux m'acheter quelque chose de plus petit, mais c'est très rare de trouver quelque chose de plus petit à bon marché, autant qu'on pense qu'on puisse décaisser. Fait qu'il y a d'autres stratégies, Raymond. On peut parler des hypothèques inversées. On peut emprunter contre une marge de crédit hypothécaire. Mais là encore, il y a des risques. La marge de crédit hypothécaire, c'est souvent des taux très bas, mais pas garantis. Et les banques, ils peuvent, en bon français, tirer la plug là-dessus n'importe quand. Si on voit que ça se met à aller mal, puis les banques canadiennes veulent gérer le risque de crédit, ils vont dire, écoutez, vos marges de crédit, là, on va couper ça. Vous avez tiré tant dessus, mais on ne vous en permet plus d'en tirer d'autres. Là, tu te retrouves, hey, j'ai plus rien pour payer mon standard de vie. L'hypothèque inversée, mais ce n'est pas une formule privilégiée au Québec. Ça l'est très fortement en Colombie-Britannique à cause que les gens, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec, ben, j'ai 5, 6, 7, 800 000 piastres à mourir, mais ma maison en vaut 12 millions. Fait qu'ils ne veulent pas vendre une maison. Fait qu'ils contractent des hypothèques inversées pour décaisser des sommes. Mais ces structures-là, les frais sont très, très onéreux et ce n'est pas évident. On se rappelle, nous, François, à l'époque, on achetait la fiduciaire venue qui était la banque à ça, Home Equity. Et on aimait beaucoup plus faire des profits d'être le banquier à ces situations-là que d'être le client qui emprunte selon leurs termes et conditions. Fait que le risque dans tout ça, Raymond, est-ce que c'est une bonne idée pour revenir à la question fondamentale du début? C'est que ça dépend. Ça dépend d'être capable de trouver quelque chose qui va être abordable. Ça dépend du marché au moment de la vente. Et ça présuppose que les règles fiscales ne changent pas. Hein? Parce que là, avec toutes les dettes des gouvernements, on va peut-être décider que la résidence va être taxable, que les gains en capital vont être 100% taxables. Il y a beaucoup de rumeurs à cet effet-là que les gouvernements vont devoir payer des choses.
Donc, si je comprends bien, toi, tu ne favorises pas cette stratégie-là, là, d'utiliser la résidence pour financer la retraite.
Écoute, encore une fois, c'est une notion de diversification. Quand on a une résidence, en passant, une plus grosse résidence, ça vient avec des frais. Ce n'est pas juste des bénéfices d'un rendement libre d'impôt, là. Fait que pour moi, c'est une question de balance. Oui, peut-être qu'on peut avoir un peu plus grand, mais que ça soit la seule et unique source pour la retraite, je pense que ce n'est pas quelque chose que je préconiserais. Puis il ne faut pas oublier aujourd'hui, les prix des maisons, ce n'est pas donné. Fait qu'on part, le point de départ pour celui qui achèterait aujourd'hui, c'est pas mal plus dispendieux. Fait que moi, je préconise pas ça, non.
Excellent. Alors, eh bien, c'est tout pour cet épisode consacré à la crise du coronavirus. James Parkin, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir, Raymond.
François Doyon-La Rochelle, merci à toi aussi.
Plaisir, Raymond.
Merci beaucoup à notre productrice Lise Delaplanche qui a fait un travail fantastique au montage des épisodes. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Vous pouvez me rejoindre via LinkedIn ou encore par courriel à raymondk@commercialpwlcapital.com. Alors, à très bientôt et soyez prudents!